proposée par les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Elles font le marché.
Nous sommes à 2600 euros, une fois.
Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Commissaire-priseur, clerc, galeriste, marchande, conseil, transporteuse, experte, quels sont leurs parcours et leurs vocations? Comment se font-elles un nom? Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise? Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ses métiers, autrefois pour certains la chasse-gardée des hommes?
2600, deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
Adjugé 2006, monsieur.
Bonjour Céline Assila, fondatrice des soirées des femmes du marché de l'art. Je suis ravie de te retrouver pour introduire ce deuxième épisode d'Elles font le marché qui se penche sur la forte digitalisation du marché de l'art en pleine crise du Covid-19. Décidément, 2020 aura été bien singulière, en mal mais aussi en bien, nous disent quatre voix de femmes qui nous parlent avec intérêt d'un marché de l'art qui fait enfin sa vraie transition numérique.
Oui, Julie, en effet, un épisode qui regarde plus spécifiquement la situation des foires et des salons. À ton micro, nous entendons Cécile Colville, conseillère en art et en gestion de patrimoine artistique chez Arnaud Dubois Associates. Depuis 4 ans, cette jeune art advisor de 29 ans accompagne ses clients sur les foires et les salons en étant attentive aux attentes des collectionneurs qui n'ont pas été réfractaires aux transactions en ligne.
Le online a aussi rythmé la vie de Laura Kugel, 30 ans, marchande à la galerie Kugel et membre du comité d'organisation de la TEFAF, foire prestigieuse qui a pour la première fois construit son édition 2020 en ligne. Cette expérience a-t-elle bouleversé les mentalités au sein d'un secteur qui était jusque-là à la traîne en termes de digitalisation? Elle nous en parle.
Également Hélène Mouradian, organisatrice de Salon, te raconte ses péripéties face à l'annulation du Salon du Dessin et à la conversion en foire virtuelle de Fine Art Paris.
Enfin, la galeriste en art contemporain Anne-Sarah Benichou nous fait part aussi de son retour d'expérience entre foires online et foires qui ont quand même réussi à maintenir leur édition.
Alors Julie, une foire virtuelle peut-elle trouver son public? Peut-elle complètement remplacer une foire physique? Quels ont été les enseignements de 2020? Autant de questions auxquelles ces quatre femmes répondent au regard de leur propre expérience.
Oui, des expériences encore jeunes pour Cécile Colville, Laura Kugel et Anne-Sarah Benichou, plus aguerries pour Hélène Mouradian. Et toutes les quatre nous confient aussi la vision de leur métier, leur passion et de quelle manière elles ont trouvé leur place au sein d'une équipe ou de manière plus indépendante. Alors c'est parti Céline, j'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce deuxième épisode.
Mais je pense que c'est la grande leçon, ouais. C'est qu'effectivement, ça nous a obligés à nous mettre un peu plus vite à la page en termes de communication digitale, de marketing digital. C'est très positif parce qu'il faut vivre avec son temps. Et là, on est passé à la vitesse supérieure.
Je pense que c'est vraiment le côté positif de la crise du Covid. C'est que collectivement, en tant que secteur, on a tous dû faire ce pas en avant et commencer à se pencher sur le numérique.
2020 aura permis une digitalisation complète et totale de l'ensemble des professionnels du marché de l'art qu'on espérait, mais peut-être pas aussi rapidement, d'un travail effectué depuis plusieurs années. Elle sera très bénéfique pour les années futures.
Rendre l'art plus vivant, le rendre plus présent par le biais du numérique, ça a abouti à quelques ventes encore une fois. Et on va le développer parce qu'on n'a pas le choix et parce que je pense qu'on rentre encore dans des années compliquées. Mais sincèrement, je ne crois pas en la disparition de la présence physique des œuvres.
Entre frustration et difficultés financières, le numérique a d'abord été perçu comme une sortie de secours pour limiter la casse, car c'est une réalité publiée dans le rapport Art Basel UBS du 9 septembre 2020. Le premier semestre de l'année Covid a vu les ventes baisser et les galeries accuser une perte de 36% de leur chiffre d'affaires, et seulement 16% des transactions, contre 46% en 2019, ont eu lieu sur les foires. Cependant, il faut noter une hausse significative des ventes en ligne, 37% au premier semestre 2020, contre 10% en 2019 sur la même période. Et parmi les clients des galeries, 26% étaient de nouveaux acheteurs en ligne qui n'avaient jamais eu de contact auparavant avec la galerie. Le bilan 2020 est encore certes difficile à établir, mais ces chiffres sont intéressants au regard du premier volet de cet épisode qui s'intéresse plus spécifiquement aux foires et aux salons. Par exemple, un peu plus d'un tiers des collectionneurs interrogés disent être passés par les viewing rooms, devenus très à la mode, et autres plateformes pour acheter des œuvres, dont 32% sur Instagram. Cécile Colville, Art Advisor, analyse l'année qui vient de s'écouler au regard de ces nouvelles pratiques numériques en rappelant que l'achat en ligne n'est pas nouveau, mais alors est-ce qu'un virage est tout de même en train de s'opérer ?
Le nombre de transactions a baissé par rapport à 2019. Vous avez eu un laps de temps assez important où toute l'économie était arrêtée. Aujourd'hui, les professionnels du marché se reconcentrent sur leur propre identité et utilisent la digitalisation plutôt dans ce sens-là. Plus particulièrement en 2020, où par exemple la viewing room a fait son entrée, une rentrée assez fracassante, où toutes les grandes galeries se sont appropriées ce nouvel outil qui permettait de faire vivre une nouvelle expérience à leurs clients. Effectivement, sur les faits, c'est une digitalisation globale, mais dans la finalité, il me semble qu'il y a des petites subtilités, particulièrement la viewing room sur les sites des galeries d'art ou des marchands d'art a pour but de vraiment faire vivre une expérience de la plus proche de l'expérience physique qu'on pourrait avoir en rentrant dans une exposition. À côté de cela, il y a les foires d'art contemporain, mais aussi les foires d'art en général, qui ont vraiment transposé l'ensemble de leurs exposants sur une page et qui ont permis à ces exposants de montrer leurs œuvres. Ces foires d'art en ligne, aujourd'hui, elles ont monopolisé l'attention puisque personne ne pouvait se déplacer et que les foires en tant que telles ne pouvaient se tenir.
Alors qu'Art Basel a décliné toutes ses éditions online en 2020, que la FIAC vient d'annoncer la tenue de sa viewing room online en mars 2021 et que la BRAFA Bruxelles s'apprête à ouvrir BRAFA at Home du 27 au 31 janvier, un concept visible depuis le site de la foire, Laura Kugel partage le même point de vue sur une digitalisation croissante et personnalisée et me détaille en particulier son expérience de la TEFAF Online en octobre 2020, qui était une grande première sous cette forme pour le marché de l'art.
Le travail a été absolument fascinant parce qu'on a pu vraiment développer la partie numérique de cette foire qui est vraiment très bien implantée, mais qui n'avait pas encore vraiment fait le pas dans le digital. Le plus important pour nous, c'était d'utiliser cet outil, enfin ce nouvel outil, en gardant l'identité qui est propre à cette foire. Donc la TEFAF est vraiment connue pour la rigueur des exposants, l'excellence des objets présentés et son côté académique par rapport à d'autres foires d'art. La foire qui présente, on va dire, l'éventail le plus large d'œuvres parce qu'on a des marchands excellents en archéologie, en art décoratif, en tableaux anciens, en art moderne, en art contemporain. D'où l'idée de différencier la TEFAF Online des autres foires en ligne en offrant aux exposants la possibilité de montrer un seul objet. Donc dans un premier temps, on a demandé à tous nos confrères de choisir une œuvre qui représentait l'identité de leur galerie ou qui avait une histoire vraiment à part entière. Et plutôt que simplement montrer une ou deux photos et un simple cartel, on a offert la possibilité de mettre des vidéos, enfin plusieurs supports multimédia. Cela se rapproche de l'expérience d'un visiteur à la foire où le rapport entre le visiteur et le marchand est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Et par rapport à d'autres foires qui avaient commencé en mettant beaucoup d'œuvres, on voit qu'au sein du marché, un petit peu tout le monde commence à rendre ces événements online un petit peu plus focus, on va dire. Nous, on a choisi déjà une œuvre qui nous semblait très photogénique. C'était une petite pendule qui mesurait à peu près 18 cm par un artiste et orfèvre qui s'appelle Kohler et qui travaillait à Dresde dans la première moitié du 18e siècle à la cour d'Auguste le Fort. Donc cette petite pendulette était vraiment comme comme un bijou orfévré avec des diamants, des rubis, de l'or émaillé. Et ça nous permettait de montrer des photos haute définition avec un zoom très important et des détails qu'on ne pouvait peut-être pas repérer en regardant l'objet en physique. Donc on a un petit peu tiré parti du fait de présenter cet objet sous ce format avec la TEFAF Online. Nous n'avons pas vendu l'objet, mais nous avons néanmoins eu des conversations très intéressantes à ce sujet. Évidemment, ce qui était compliqué avec ce format d'une œuvre par galerie, c'est qu'on a demandé aux exposants de choisir une œuvre exceptionnelle. Les prix étaient relativement élevés et on sait, selon plusieurs études, que beaucoup de gens achètent de l'art en ligne, mais le prix moyen de ces transactions, je crois que ça reste entre 10 et 20 000 dollars. Donc là, on était bien au-dessus de ces prix-là, mais ça représente encore une fois aussi la foire. La TEFAF n'est pas forcément une foire pour les jeunes acheteurs, c'est déjà une foire pour les institutions et les collectionneurs confirmés. Enfin, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'utilisation des outils numériques pour des foires comme la TEFAF, on peut vraiment avoir un retour statistique sur le parcours que prennent les utilisateurs. Ici, par exemple, on s'est rendu compte que les gens étaient friands de contenus divers et variés. Donc, il nous semble que c'est vraiment important de proposer une offre plus élargie de contenus en plus des objets qui sont à vendre, de ne pas simplement en faire une expérience mercantile, mais vraiment un moment d'éducation, de développement personnel. Les gens sont friands d'utiliser Internet comme moyen pour apprendre, pour découvrir.
Moins de ventes, mais plus de contenu. Une expérience profitable pour les années à venir. Malgré les difficultés, comme Laura Kugel, Hélène Mouradian, organisatrice du Salon du Dessin et de Fine Arts Paris, tente de déceler les points positifs qu'elle peut retirer du tout digital.
On connaît toutes ces circonstances de la crise sanitaire qui nous ont fait annuler le Salon du Dessin juste 10 jours avant son ouverture. Donc ça a été un très gros travail de détricotage. On était censé ouvrir le salon le 24 mars et le 10 mars on a tout arrêté. Donc on était vraiment à la limite de l'ouverture du salon, on leur a fait un avoir de 75% et on a gardé 25% pour les frais déjà engagés. Donc évidemment, ils ont perdu de l'argent et nous aussi. Tout le monde a beaucoup perdu. Hein. On a essayé de reporter le salon du dessin d'abord. Et puis finalement, quand on a vu que la crise perdurait, on a annulé complètement l'édition. Et on s'est concentré sur Fine Arts Paris qui devait avoir lieu en novembre. Donc on s'est dit, bon, en novembre, on va y arriver. Et puis non, en septembre, on a décidé de partir au Palais Brongniart où nous faisons habituellement le Salon du Dessin. À peu près, oui, 3 semaines, 1 mois avant, on a dû tout arrêter parce que de toute façon, le confinement était de nouveau là. On s'est dit que pour un jeune salon qui démarrait, être annulé complètement, ça serait problématique. Puis surtout, on s'est dit qu'il y aurait toute une clientèle étrangère qui, quoi qu'il arrive, ne pourrait pas venir au salon. Fort de ce constat, on s'est dit, on va faire un salon virtuel de toute façon. Sur la plateforme, on avait 510 images pour 53 galeries. On s'est rendu compte qu'on avait eu 20 000 connexions. C'est un bon chiffre. Disons que, pour les comme Fine Arts Paris est un jeune salon, on avait accueilli autour de 6 à 10 000 visiteurs. C'est presque mieux, mais le problème, c'est que dans un salon, quand vous vous promenez, vous restez au moins une heure. Et là, le temps de connexion, qui n'est pas idiot, hein, enfin, c'est pas mal quand même, le premier jour, le vernissage, c'était 15 minutes. Et donc, il faut absolument qu'on renforce notre capacité à faire des beaux salons virtuels qui donnent envie, mais qui soient un complément du présentiel. Parce que les exposants ont aussi besoin du contact direct avec le client et que c'est pas tout à fait pareil de voir quelqu'un passer dans une allée et que la personne vous repère et vous dit « Ah oui, tiens, lui, je ne l'ai pas salué l'année dernière, tiens, moi, je vais le voir, etc. » Et là, vous pouvez faire une vente comme ça en 5 minutes. On a eu autour de 7% de ventes, ce qui représente une trentaine d'œuvres. Si on était dans un salon physique comme au Salon du Dessin, par exemple, on tourne plutôt autour de 35%. Donc, c'est vous dire que c'est fantastique qu'on ait fait 7% parce que c'est mieux que rien, mais on n'est pas tout à fait encore au point.
Il y a eu environ 20 000 visiteurs qui ont découvert TEFAF Online, visiteurs uniques, et une vingtaine de ventes. Donc quand on part du principe qu'on montrait un objet par marchand et qu'il y avait presque 300 marchands, ça fait un petit peu moins de 10% d'objets vendus. Mais en réalité, c'est assez important déjà. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'en marge des 20 objets présentés, vendus, Il y a eu aussi une vingtaine de ventes indirectes de clients qui ont découvert des galeries et qui ont acheté des objets grâce à la TFAF online qui n'étaient pas les objets exposés. Je crois que d'habitude la TFAF attire entre 50 et 70 000 visiteurs, ce qui est comparable au nombre de visiteurs de Bâle, par exemple. Donc 20 000 par rapport à 70 000 pour un exercice qui était complètement différent. Je ne saurais pas juger de si c'est un succès ou pas, mais ça me semble intéressant. Et ce qui est très différent, c'est que beaucoup de ces visiteurs n'étaient pas habitués peut-être à la TFAF. C'est vraiment un moyen d'attirer des gens complètement différents qui ne se déplacent peut-être pas à New York ou à Maastricht.
Je pense qu'il est plus facile d'acheter entre 10 000 et 30 000 euros ou 40 000 euros sans avoir vu l'œuvre que au-delà. Mais c'est quand même faisable. Les prix ont tourné essentiellement autour de 10 000 euros, mais j'ai eu quand même quelques ventes qui étaient bien supérieures.
Dans l'art ancien, il y a la beauté de l'œuvre et il y a la question de l'état, de l'authenticité, des choses qui ne peuvent vraiment se révéler qu'en la regardant en physique. Donc sur une photo, on peut déceler des problèmes ou au contraire des atouts, mais il faudra toujours examiner l'œuvre. Cela n'empêche pas de faire la première approche auprès d'un client via un outil numérique.
Alors une foire virtuelle peut-elle vraiment remplacer une foire physique ? Le marché de l'art est très divers et tout ne peut s'acheter en ligne. Nos intervenantes sont d'accord sur ce point. Cécile Colville commence par en préciser quelques différences au niveau des collectionneurs et des œuvres.
Je pense que sur un certain secteur où les œuvres d'artistes reconnus, tout le monde a vu un Picasso dans un musée, tout le monde a vu un Matisse, et donc ce sera beaucoup plus facile de se positionner sur un achat en ligne ou à distance. Ce qui sera le plus compliqué, ce sera pour les artistes les nouveaux artistes, les jeunes artistes, et dans ce cas-là, le collectionneur va avoir besoin de se déplacer. Et c'est pour ça qu'on a pu voir vraiment une différence assez importante se créer en 2020 entre les jeunes galeries et qui promeut des jeunes artistes, où la rencontre est extrêmement importante avec des jeunes collectionneurs ou des collectionneurs avertis, mais qui ont besoin d'avoir ce rendu plastique de l'œuvre.
Anne-Sara Benichou, galeriste à Paris depuis 5 ans en art contemporain, souligne ce point en revenant en particulier sur son expérience d'Arco Lisbonne online.
Alors, nous, ça a été un échec commercial, mais je ne sais même pas si ça aurait été une réussite sur place, pour plein de raisons. D'abord parce que c'était la première ou la deuxième édition uniquement de l'Arco à Lisbonne, donc c'est une foire toute jeune qui doit s'implanter, qui n'a pas encore son gros réseau de collectionneurs. Elle est adossée à l'Arco Madrid bien sûr, mais c'est pas encore la même chose. Mais déjà une toute jeune foire, c'est pas évident quand on arrive pour la première fois de faire beaucoup de ventes. Donc là, en plus online, c'était difficile. D'autant que je présentais une artiste alors qui a vraiment un travail in situ, qui est Shuro Kriesh, qui fait de la fresque, qui fait de l'installation. Enfin, le principe du stand, c'était vraiment des fresques murales avec des œuvres. Donc voilà, enfin, vraiment, tous ces critères, les uns additionnés aux autres, ont fait qu'il était vraiment compliqué de vendre online et que je n'avais pas vraiment d'attente spécifique après, vis-à-vis de cette foire qui s'est tenue effectivement sur Arty. De ce que j'ai vu, beaucoup de foires comme ça qui ont fait des éditions online très rapidement se sont adossés sur des sites de vente qui existaient déjà parce que ça coûte très cher de développer sa propre plateforme. Donc je pense aussi que peut-être j'étais noyée dans la masse de toutes les galeries déjà de la foire et en plus de toutes les autres galeries qui sont aussi sur Arty. Enfin, moi, depuis que j'ai la galerie, j'ai du mal à travailler avec le online et à y croire de façon généralisée. Je sais que c'est peut-être l'avenir d'une partie de la vente dans l'art, mais moi, dans mon expérience, dans ma façon de travailler et à mon niveau de galerie, la vue des tableaux, les visites face aux œuvres ne peuvent vraiment pas disparaître au profit du online. Autant je pense que le online peut fonctionner pour des grands noms, pour des marchés en flux très tendus, pour des artistes qui sont très très demandés un peu partout dans le monde et qui ont une cote très importante, autant pour les artistes que je représente, dans la majorité des cas, on a encore besoin de voir l'œuvre, de la rencontrer, de ressentir quelque chose avant de l'acheter. Enfin, moi, je n'ai pas un marché de spéculation. J'ai vraiment encore des prix petits et moyens, à part une de mes artistes dont les prix sont en train de monter. Mais pour les autres, ça reste des artistes non spéculatifs qu'on achète parce qu'ils font une belle carrière et parce qu'on a envie de les avoir chez soi. Mais de façon générale, oui, il y a eu beaucoup moins de collectionneurs à la galerie et de fait, moins de ventes.
Les clients ne sont peut-être pas complètement prêts, les marchands non plus, même si les salles des ventes ont fait un gros travail parce que ça fait déjà un moment qu'ils sont en virtuel et qu'on voit bien qu'ils ont une avance sur les galeries et sur les salons. Quand vous entendez la frustration des visiteurs de musées, même si avec toutes les superbes choses numériques que font les musées, donc ça veut quand même dire que les gens ont aussi besoin du rapport à l'objet direct. En fait, pour moi, le virtuel, c'est de la communication. Il faut le prendre comme une super page de pub, entre guillemets, vous voyez ?
Outils de communication, certes, mais pas que. Il y avait aussi un retard à rattraper, ce que souligne Laura Kugel sur son secteur.
Finalement, tout le monde est conscient de l'ampleur de cette crise. Donc il y a eu une vraie transition qui s'est effectuée assez rapidement. Et j'en suis très heureuse parce que ça faisait longtemps que le marché de l'art ancien avait besoin de ce petit coup de pied aux fesses. Donc évidemment, c'est une période qui est très difficile, mais de voir un petit peu la profession en général innover, c'est un gros point positif. Dans l'art ancien, beaucoup de marchands travaillent d'une manière qui est déjà établie depuis de longues années et nous sommes nombreux, la galerie Kugel y comprise, à ne pas avoir nécessairement fait la transition digitale en temps et en heure. Il y avait un gros retard à rattraper et d'un seul coup, plutôt que quelques galeries qui faisaient des événements en utilisant le numérique chacune de leur côté, tout le monde s'y est mis. Pour le marché, c'est très bien. Surtout si, in fine, on y trouve tous notre compte et une fois la crise passée, on commence à fonctionner avec un système un petit peu hybride où le numérique fait partie du marché de l'art ancien. Beaucoup de galeristes et peut-être aussi de maisons de vente ont souvent été réfractaires pendant de nombreuses années à l'arrivée des outils numériques, l'ont vu avec une certaine méfiance, on va dire. Et aujourd'hui, il y a un revirement à 360 degrés et on commence à comprendre collectivement que ces outils peuvent être utilisés à bon escient. Cette année, d'un seul coup, tout a explosé. Moi, je suis optimiste de nature, donc j'essaie de voir le positif dans cette crise terrible et de se dire que c'est un petit peu un moment incubateur, un moment d'innovation. On va tous apprendre à travailler différemment. Beaucoup de bonnes choses peuvent en sortir. Je trouve que c'est très bien pour redéfinir aussi la place des jeunes dans ce marché, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui travaillent avec énormément d'énergie, énormément de passion dans le marché de l'art, et ils ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Et d'un seul coup, tout change, et je pense que les marchands, les conservateurs, tous les acteurs bien établis du marché de l'art et du monde de l'art ont découvert que finalement, c'était bien aussi d'avoir des jeunes dans leurs équipes pour les aiguiller, pour expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi en fait le nouveau monde, c'est quoi le numérique.
La digitalisation progressive et croissante, accélérée par le Covid-19, amène en effet à se questionner sur des profils plus jeunes aussi, de nouveaux collectionneurs, de nouvelles collectionneuses plus connectées. Les femmes aussi ont pris leur place en apportant leur regard et leur liberté d'évoluer dans ce nouvel écosystème. Cécile, Hélène, Anne-Sarah et Laura témoignent chacune de leurs ressentis. Cécile Colville.
Les femmes ont toujours fait partie de ce marché. Elles n'ont pas eu la visibilité qu'on pouvait attendre pendant plusieurs années. Ça commence à changer. On voit énormément de femmes à la tête de certaines galeries, mais également de certaines sociétés de vente aux enchères. Art Advisor, pour moi, n'est pas par contre un métier genré. On peut l'être femme, homme, d'une manière différente, mais en l'exerçant pleinement.
Alors oui, je pense qu'il y en a plus que quand j'ai commencé. Je suis assez fière d'ailleurs de dire qu'au Salon du Dessin, il y a pas mal de femmes marchandes.
Hélène Mouradian.
Je dirais même qu'il y a un revirement au niveau des conservateurs. Il y a plus de femmes conservateurs que d'hommes maintenant. Et je me rends bien compte parce qu'il y a quelques années, donc on organise au Salon du Dessin un déjeuner avec tous les grands collectionneurs et les conservateurs et un membre de galerie par table. Ça représente 200 personnes à peu près. C'est un déjeuner vraiment très sélectif et très apprécié parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se font pendant ce déjeuner. Et au départ, on avait du mal à concilier, à faire une tablée avec autant d'hommes que de femmes à la même table, etc. Et maintenant, si on veut faire une table équilibrée, c'est pas toujours évident, mais c'est plus parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui sont conservateurs. Elles ont un autre regard aussi, donc c'est intéressant. En fait, je ne sais pas très bien comment vous l'expliquer, mais c'est plus le... comment dire ? Je trouve qu'il y a souvent une unité. Il y a une uniformité. Par exemple, dans un stand tenu par une marchande, vous rentrez dans un univers. Le marché de l'art féminin recrée plus des univers que le marché de l'art masculin. Je dirais que c'est ce que je ressens, en tout cas.
Alors, c'est vrai que le rajeunissement des collectionneurs sur certains types d'artistes est évident, et heureusement, parce que c'est comme ça que se fera l'avenir du marché de l'art en France. Et oui, ce sont des collectionneurs qui achètent beaucoup plus facilement sur Instagram, tout à fait. C'est une évidence, et effectivement, les quelques ventes qu'on a pu faire pendant le premier confinement ou pendant le second, ou les ventes qu'on fait online, sont souvent à des collectionneurs beaucoup plus jeunes.
Anne-Sara Bénichou.
C'était pas du tout une évidence pour moi d'ouvrir une galerie. Je voulais plutôt, peut-être comme beaucoup de femmes de ma génération, plutôt travailler en musée. Ouais, j'ai l'impression, enfin, je vois plein de galeries s'ouvrir à Paris. Je suis pas sûre de l'âge des galeristes, mais il y a la galerie, Chloé Salgado qui a ouvert il y a pas longtemps, il y a Maëlle Galerie qui a ouvert, il y a surtout Pauline Pavec qui est une jeune galeriste, je crois qu'elle a 25 ans, qui cartonne. Et je trouve ça formidable, voilà, que des jeunes femmes osent ouvrir des galeries aujourd'hui. Et j'ai créé ma galerie. Et oui, et j'adore ce que je fais. Alors, c'est pas facile tous les jours, surtout en ce moment. Mais j'adore ce que je fais, oui.
C'est une galerie familiale. Mon père et mon oncle ont hérité de leur père quand ils étaient très jeunes, et ils ont su la grandir et lui donner encore plus d'importance qu'elle en avait déjà.
Laura Kugel.
Une rigueur et un souci d'excellence que je trouve tout à fait extraordinaire. Et peut-être que plus jeune, je ne m'en rendais pas compte. En tout cas, ce n'était pas du tout une vocation de longue date. D'ailleurs, bien au contraire, j'avais absolument pas envie de travailler avec eux. Je m'étais dirigée vers des études tout à fait différentes. Et c'est une fois jeune adulte, en passant plus de temps avec mon père, en l'accompagnant à certains rendez-vous, que j'ai découvert que c'est un métier qui est tout simplement extraordinaire. Et une fois que j'ai commencé, ça m'a semblé impossible d'arrêter. Évidemment, je me trouve dans une situation qui est tout à fait privilégiée par rapport à d'autres jeunes dans le marché de l'art, vu qu'il s'agit de la galerie de ma famille dont je porte le nom. Donc j'ai toujours bénéficié d'une certaine bienveillance. Ça a effectivement été différent lorsque je m'aventurais à aller à un rendez-vous seul ou aller à Drouot seul, parce que d'un seul coup, sans être accompagnée, je ressentais que c'est difficile d'être une femme, c'est difficile d'être une jeune femme. Ça reste un monde principalement d'hommes, donc pour casser un petit peu les codes, je trouve que c'est très bien qu'il y ait plus de femmes, plus de jeunes femmes, et je suis tout à fait ravie d'en faire partie.
Vous venez d'écouter la première partie du deuxième épisode du podcast « Elles font le marché » en partenariat avec les Soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. La deuxième partie, le mois prochain, s'intéressera à la digitalisation au sein des ventes aux enchères. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio, le troisième mercredi du mois à 19h, et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Ocha, Google Podcast ou encore SoundCloud. Elles font le marché, épisode 2, deuxième partie, et donc à retrouver le mercredi 17 février à 19h sur Art District Radio et en podcast.